copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux. Et il lui dit...
T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Saletemps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Cette semaine encore, un format spécial interview pour parler du cinéma avec les personnes qui font les films. Alors côté intervieweur, on est en tout petit comité, hein. Aujourd'hui c'est seulement Julien. Salut Julien.
Salut Clémence.
Et puis moi. Et puis côté interviewé, c'est un nouveau venu dans Saletemps. Il est réalisateur, scénariste, passionné de cinéma mais aussi passionné de justice. Sorti en 2019, son premier long métrage, Une intime conviction, proposait une version fictionnalisée de l'affaire Viguier. Avant ça, il a carrément fait jouer Éric Dupond-Moretti dans un de ses courts-métrages. Et pour son nouveau film, Changement d'échelle, une affaire de principe revient sur une affaire qui a secoué les institutions européennes. Bonjour Antoine Rimbaud.
Bonjour.
Alors, avant de se rentrer dans le vif du sujet, on va remercier tous nos soutiens. Merci tout d'abord à Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films exclusifs et des séries télé inédites sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis, merci également à toutes les auditrices, à tous les auditeurs qui nous soutiennent et qui nous permettent de vivre, tout simplement. Merci aux personnes qui ont notamment contribué à la sortie de notre MOOC. Je le rappelle, notre dernier MOOC est disponible dans toutes les bonnes librairies. Si vous voulez continuer à nous soutenir, vous pouvez souscrire à un don ponctuel ou récurrent sur une de nos plateformes partenaires, Tipeee, Patreon ou KissKissBankBank, mot-clé CaptureMag. Retour à notre invité. Alors Antoine, donc tu viens de nous parler de ton nouveau film, Une affaire de principe, qui sort ce mercredi 1er mai. Ce film, il est tiré de faits réels. C'est même une adaptation du livre de José Bové, qui s'appelle Hold Up à Bruxelles. Alors vous l'ignorez peut-être, hein, mais en 2012, le député européen José Bové et ses assistants ont mené une enquête. Ils cherchaient à comprendre pourquoi le commissaire européen à la santé, John Daly, avait été limogé du jour au lendemain de manière pas très claire. Et il découvre un véritable complot sur fond de lobbying des géants du tabac. C'est bien ça, hein.
C'est exactement ça.
Donc, je le disais en intro, bah, c'est le troisième film qui traite de questions de justice. Ça devient d'où cette fascination pour cet univers ?
J'ai pas encore complètement percé ça en psychanalyse, mais je dois avoir quand même une blessure d'injustice, un truc qui résonne fort. Et cinématographiquement parlant, c'est des...
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
Choc comme 12 hommes en colère quand j'ai 11-12 ans. Et voilà, c'est un peu le hasard qui m'avait amené sur les bancs de la cour d'assises du procès de Jacques Viguier. Et j'étais devenu complètement obsédé par cette affaire et cette histoire. Et puis personnellement investi là-dedans surtout. Pendant l'écriture de ce film-là, j'ai passé beaucoup de temps aux assises. J'ai du coup beaucoup côtoyé Éric Dupond-Moretti et donc c'était une parenthèse que de le faire jouer dans un court-métrage alors que j'écrivais le long. Et puis une fois que ce long-métrage, Une intime conviction est sorti, j'ai décidé que je ne ferais plus de film judiciaire. En fait là je suis en train d'en développer un autre. Et par contre cette boussole là de faire un travail un peu journalistique à partir d'énormément de matériaux avait fonctionné, j'avais trouvé mon chemin de cinéma, donc j'ai recommencé ça sur ce nouveau film qui est effectivement sur des thèmes un peu communs, mais quand je prends le recul et j'essaye de théoriser ce que ça raconte, j'ai l'impression que j'ai voulu faire un premier film sur la justice, interroger la justice, l'institution judiciaire dans ses dysfonctionnements, et là c'est plutôt un film sur l'état de droit,
Oui, mais c'est à minima une extension de ce que tu avais fait avec ton premier long.
Dans la méthode, clairement. Ouais. Dans les thèmes aussi, un peu. Et en même temps, le décor n'est pas le même. Les enjeux dramaturgiques ne sont pas les mêmes du tout. Mmh. C'est un film d'enquête, donc ça se ressemble un peu. Mmh. Moi, j'ai vraiment voulu faire autre chose. Hein. Je sais qu'on...
tu n'échappes pas à tes démons. Voilà. Non, mais il y a un truc déjà qui est intéressant, c'est cette nécessité, on a l'impression... Chez toi, en tout cas, dans ce qu'on a vu pour l'instant de ta carrière, hein, qui est vraiment en devenir, hein, puisque c'est ton second long métrage uniquement, quoi. Mais de baser sur le réel, en fait, de partir du réel pour essayer de voir comment la fiction peut avoir son... peut réclamer ses droits. Et moi, enfin, c'est comme ça aussi que j'apprends de tes deux films, hein, je le vois comme une espèce de tension permanente entre la fiction et jusqu'à quel point tu vas la pousser, tu vas l'assumer, et cette nécessité d'être... comment dire, rigoureux par rapport à ta transcription d'événements réels.
Ouais, en fait, je me piège dans le dispositif, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucune fiction qui ne part pas du réel. Hein. C'est même Friedkin, là, qui est posé sur la table, il fait un travail de recherche assez poussé, même, enfin, c'est pas possible, même quand tu fais de la science-fiction, tu fais des recherches. Donc on part tous, de toute façon, d'un travail de recherche. Après, on s'accroche ou pas, on s'émancipe ou pas, on coupe symboliquement, en s'inspirant vraiment librement. Moi, je me piège un peu plus parce qu'effectivement, je vais sur un cas particulier, je fais un travail de fond. Vraiment, c'est des films dossiers, quoi, les deux, en tout cas, les deux premiers. J'espère faire tout à fait autre chose après, mais pour l'instant, je fais ça. Et puis on verra, et puis à un moment donné... Mais effectivement, j'ai un truc de rigoriste, en tout cas au scénario. C'est-à-dire que vraiment, une fois qu'on s'est dit « Ok, on fait un film sur les institutions européennes avec José Bové, on va pas commencer à... On fait un José Bové de cinéma. » Une fois que j'ai fait ça, que j'ai décidé de faire ça, je suis obligé de tout garder. Je vais pas non plus changer le nom de Philippe Maurice, ce serait complètement ridicule. Donc je me piège, mais j'inventerai. Hein. Les Américains ont fait ça 1000 fois.
Mais il y a un truc quand même sur le premier film était vraiment sur une espèce de... Alors je sais pas si le terme va te plaire, mais je le dis quand même, mais de fascination pour Dupond-Moretti, si ce n'est pour l'homme, en tout cas dans son activité d'avocat. Et là, il y a la même chose.
Pour l'avocat de la défense.
Voilà, et c'est-à-dire que j'ai l'impression que il y a une motivation première, en tout cas, qui émane de ces deux projets, qui vient de... Tu as un héros du réel, je vais le présenter comme ça, et après, tu remets les trucs comme tu veux, hein, Antoine, mais il y a un héros du réel, et après, toi, t'essayes autour de ça de t'investir et de chanter ses louanges, en fait, quelque part. Quoi.
Ouais, c'est là que je corrigerais chanter ses louanges, mais je dirais que oui, je trouve que d'abord, moi, j'ai besoin de héros de cinéma.
Les deux n'en sortent pas entachés, enfin, je veux dire, au contraire. Quoi. Je veux dire, Dupond-Moretti, je sais pas ce que tu en ferais aujourd'hui, mais
il m'intéresse moins l'endroit où il est aujourd'hui.
Exactement, voilà. Bien sûr.
Il m'intéressait.
Tu chantais ses louanges, enfin, en tout cas, tu vantais ses mérites en tant que dans son activité.
Ouais, mais je dirais que le point commun entre les deux et ce qui m'intéresse, c'est les valeurs. C'est plutôt ce qu'on a à nous apprendre et à nous dire. Quoi.
Mais aussi la façon qu'ils ont aussi d'exercer leur métier, c'est ça aussi.
Et ce qui en fait des personnages de cinéma. Donc oui, il y a des points communs. Quoi. Effectivement, Dupond-Moretti, il m'intéressait énormément dans sa robe d'avocat de la défense, qui est un endroit de contre-pouvoir au cœur du dispositif des assises. J'aimais son rapport à l'autorité, voilà. Et il y a un truc de punk chez lui, comme chez José Bové, à cet endroit-là. Aujourd'hui, dans les habits du pouvoir, c'est plus compliqué.
Oui.
Le personnage de Bové, il m'intéresse en tant qu'incarnation du contre-pouvoir. C'est un peu les mêmes endroits.
C'est ça. Hein, voilà. Ouais.
Et ils portent des valeurs et ils viennent titiller, secouer le cocotier et titiller l'institution et le pouvoir. Et pointer les dysfonctionnements pour que ça marche mieux. Enfin, c'est vraiment l'enjeu, c'est les valeurs et la démocratie. Et voilà, c'est ça le point commun.
Ouais, tu disais dans une autre interview que c'était un peu un acte citoyen pour toi, un acte démocratique de porter justement au regard du monde ces contre-pouvoirs-là, de les mettre en lumière.
En tout cas, en tant que spectateur, je les vois pas beaucoup représentés. Il y avait pas beaucoup de films de procès. Je suis très fier, je le dis comme ça maintenant, c'était difficile de monter le premier film. C'était en plus un premier film. Il y avait pas beaucoup de films de procès. Aujourd'hui, le public est en demande de ça et il se monte beaucoup les films judiciaires en France. Donc déjà ça, en fait, c'est politique. Avant même d'arriver sur un terrain, un décor politique, c'est politique la représentation. Donc représenter, faire un héros de cinéma d'un avocat de la défense qui vient parler de présomption d'innocence, c'est politique. Faire un héros de cinéma de députés européens et de ses assistants, parce que il y a trois députés un peu identifiés dans le film, enfin identifiés pas du grand public, mais il y a trois députés et il y a l'équipe de Beauvais que lui-même surnommait ses co-députés. Ça, c'est son geste à lui, mais voilà, raconter ce collectif-là et en faire des héros de cinéma, c'est-à-dire c'est des enquêteurs qui sont ni flics, ni journalistes, ni... Ça, c'est politique aussi. Voilà. Et puis aller raconter un thriller de bureau, j'appelle ça comme ça, dans les coulisses des institutions européennes, c'est politique de les représenter parce qu'elles ne sont pas vraiment représentées.
Exactement. C'est, mais moi, je sais que... Enfin, on en avait déjà parlé en amont, en fait, avant même que tu tournes, ouais, de ce projet-là et tout. Et c'était le premier geste, moi, qui m'avait beaucoup plu, en fait. C'est que tout à coup, tu fasses des institutions européennes qui sont très opaques, qui sont très, très éloignées de nous, un objet de cinéma. Ce qui est... à ma connaissance, quasi inédit. Enfin, je ne sais même pas s'il y a un précédent, mais il y en a eu très peu. Quoi,
au cinéma, il y a eu un film de Costa Gavras, qui est du côté de la Commission et du Conseil, autour de la dette grecque, qui est intéressant, qui n'est pas le même film, mais enfin, qui est revient, sauf que, malheureusement, il n'a pas pu du tout tourner dans les vrais lieux, pour des raisons politiques évidentes, et puis de la même façon que dans ce projet, lui aussi s'est piégé en gardant les noms, c'était pas, ça n'avait pas de sens quoi, de s'émanciper au point de tout maquiller, donc il n'a pas pu avoir accès aux institutions. Nous, on a pu avoir accès aux institutions, voilà, ce qui était une très bonne nouvelle, parce que c'était pas gagné du tout. La présidente du Parlement actuel, Roberta Metsola, est maltaise. C'est un peu un panier de crabes, Malte, c'est une toute petite île avec des règlements de compte politiques, notamment autour du fameux John Daly dont on raconte l'affaire. On aurait pu avoir des bâtons dans les roues, on n'en a pas eu. L'institution...
Surtout que vous l'affrontez directement, en fait, le panier de Malte, le panier de crabe maltais.
On évoque
vous l'évoquez,
choses,
en tout cas.
Voilà, on évoque des choses, on va à Malte, on se cache pas. Les Maltais, on s'interroge. Puis il y a tout un volet de l'affaire qui tient probablement de la politique intérieure maltaise aussi, quoi. Le fait que ce mec ait été piégé, très probablement piégé. Voilà, donc moi je disais sans arrêt au producteur, on va pas pouvoir faire ce film si on peut pas tourner au Parlement européen. Ça n'aura aucun sens d'aller recréer l'hémicycle européen dans la région nord. C'était pas possible. Il me disait si on trouvera des solutions. Bon, toujours est-il qu'on a pu tourner au Parlement. Donc ça, c'est une avancée un peu. Mais avant le film, il y a quand même une représentation dans la fiction qui est la série Parlement, qui a déjà tourné trois saisons au Parlement de Strasbourg. Qui a vraiment essuyé les plâtres, qui a eu aussi, qui a dû faire son lobbying pour rentrer dans l'institution, comme nous on a fait le nôtre plus tard, qui est une série plutôt de satire à l'anglaise, pour le coup un peu déconnectée, qui, à mon avis, c'est le petit défaut de la série, donne une image des députés, qui est celle de la satire, donc j'allais dire caricaturale, mais non, satirique, donc qui n'est pas du tout au même endroit que nous, mais quand même, il y a eu ce premier geste-là, et nous on arrive avec un film qui s'ancre dans une affaire et qui se défait pas des noms et donc qui prend la responsabilité et le risque d'y aller, quoi. Et ils ont suivi ce risque là le Parlement.
D'accord.
Très très bonne nouvelle pour la démocratie. On peut faire des films de cinéma d'après des faits réels dans les institutions européennes.
Mais ça va être très contraignant, non, de tourner dans un endroit comme celui-ci, malgré
très
tout,
très contraignant. Mais moi j'aime bien la contrainte, c'est là que je dis je me suis piégé. Mais ça me rassure de me piéger, je crois que j'ai peur du vide, quoi. J'aime bien avoir c'est contraignant. Alors d'abord, il n'y a pas d'obstacle, c'est-à-dire qu'ils ont demandé le scénario, ce qui est la moindre des choses, on leur fait lire, ils disent ok. Il y a eu un petit peu une réunion où j'ai réexpliqué qu'effectivement l'enjeu du film c'était quand même de donner envie d'Europe et dans l'absolu de célébrer la victoire du droit dans l'hémicycle européen. C'est quand même là qu'on va. Donc ça les a un peu rassurés, parce que c'est aussi une histoire de sombre complot dans les coulisses de la commission. Voilà, mais le point de vue étant du côté des parlementaires et nos protagonistes, nos héros de cinéma étant des parlementaires, ils ont compris l'enjeu, quoi. Donc, ils nous ont accueillis. Après, effectivement, fallait qu'on ait une idée hyper précise et mesurée du nombre de plans, de où on tournait, de où était la caméra. Enfin, c'était archi contraignant, effectivement, mais c'est normal. C'est des institutions où on est sans arrêt contrôlé, il y a des portiques partout, le moindre figurant doit être prévu une semaine à l'avance, et on doit avoir envoyé ses papiers d'identité, etc. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, c'est sans filet. Beaucoup de repérages, beaucoup, beaucoup d'allers-retours avec le Parlement, de discussions, comme on tourne l'été. On va d'abord au Parlement de Bruxelles, puis au Parlement de Strasbourg. On a tourné au Parlement de Strasbourg des séquences se déroulant en fait à Bruxelles, mais comme il y a différents bâtiments et différentes couches d'architecture, on s'est débrouillé correctement, mais on découvre une semaine avant qu'en fait au mois d'août il y a aussi des travaux et que le décor qu'on a validé depuis 3 mois, ça va pas être possible. Donc oui, c'est très contraignant, Mais bon, les contraintes, c'est le cinéma, c'est le réel, moi ça me va ça.
T'as beaucoup triché, il y a des reconstitutions en studio, il y a des incrustes,
on n'a pas construit, il y a des effets spéciaux.
Ouais.
On a triché totalement la Commission européenne, c'est-à-dire que tout ce qu'on aperçoit de l'intérieur de la Commission européenne, que ce soit des gros plans très thrillers du générique du début ou quand... notre personnage de Beauvais est escorté par deux mecs de la sécurité, qu'on passe les portiques, qu'il arrive dans cette reading room. Tout ça, c'est pas tourné à la commission, parce qu'on n'a pas demandé à la commission de tourner chez eux, ça nous paraissait absurde. Et d'un point de vue politique, c'était un peu compliqué d'aller les provoquer. Et d'un point de vue de cinéma, je voulais faire une commission de cinéma, moi. Je voulais que ce soit l'étoile noire de Star Wars. Donc, on est à distance, on les filme aussi à travers des vitres. Ça, c'est des effets spéciaux. C'est-à-dire qu'on a filmé des bâtiments qui ne sont pas à la commission et on est allé refaire les brise-soleil de la commission pour les raccorder avec des plans qu'on avait fait de la commission. Donc, tout ça, il y a un gros truc rigolo, très préparé, quoi. Tout le monde devenait fou dès que je parlais des brise-soleil. J'avais deux obsessions sur le tournage. Ils se moquaient de moi, les brise-soleil et le chariot du générique. Qu'on a... et donc, tout ce qui tient de la commission...
Parle-nous plus du chariot du générique.
Non, mais alors. C'est rien, en fait, à la fin, le chariot. Mais en gros, cette commission de cinéma, c'est une somme de 7 ou 8 décors entre Bruxelles et Strasbourg. Et dès qu'il y avait un bout de décor qui m'intéressait, qui était dans les codes qu'on avait déterminés être ceux de la commission, c'est-à-dire... du sol noir, etc. Dès que je voyais un bout de truc, j'ai dit, tiens, là, on peut faire un plan avec le chariot. Voilà. Donc, on avait un chariot dans le camion en permanence et une doublure pour pousser le chariot qui était le second assistant mise en scène. Qui était, voilà. Et donc, la blague, c'est que j'étais complètement obsédé. C'est un fétichisme pour ce chariot, quoi.
Mais c'est intéressant, ça, parce que sur le papier, tu te retrouves avec des gens qui lisent des dossiers, font des photocopies, dans des décors qui sont quand même très tristes. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, moi j'ai réalisé des docs et tout, quand tu dois interviewer quelqu'un dans un bureau comme ça, mais tu pleures parce que c'est très compliqué à rendre ça intéressant, visuellement cool et tout. Et comment t'abordes ça justement? Parce que tu parles des contraintes, mais alors ça, dans le genre contrainte, c'est très compliqué. On viendra après sur la question des dialogues et sur la quantité d'informations aussi à donner, mais rien que ça, enfin visuellement,
mais ça,
c'est très complexe.
C'est vraiment le projet lui-même, ça. C'est-à-dire se dire, ok, on fait un thriller de bureau et ça va être sexy, quoi. Les décors, ils sont intéressants.
Un thriller de bureau,
ouais, avec effectivement des gros plans sur la photocopieuse. Non, mais c'est j'assume ça, 100%, c'est le challenge, c'est ça. C'est-à-dire rendre intéressant et haletant et trouver une écriture de suspense à travers des rebondissements qui consistent à faire des gros plans sur un téléphone portable, une imprimante qui sort un document. Bon, on a un peu aussi injecté des trucs un peu marrants de cinéma, une course-poursuite ou une chercher une aiguille dans une botte de foin dans une gare, voilà, mais qui sont des choses un peu lo-fi. Il y a pas de scène d'action dans le film, mais il y a un peu des scènes de comédie d'action lo-fi.
Ça, par exemple, cette scène de gare, ça, c'est un truc que t'as rajouté au scénario, c'est un truc que Beauvais t'a raconté, d'accord?
Non, il y a pas eu ça. En fait, au départ, l'idée qu'on se fait, le projet, le désir de cinéma de départ, c'est un thriller de bureau avec des walk and talk dans des couloirs à l'américaine,
ça te fait
à la Maison Blanche. Non, c'est, je me dis, c'est ça qu'on peut faire en France. On peut pas s'amuser avec des hélicoptères si facilement que ça. Ça, c'est casse-gueule. En fait, ça sert à rien d'aller sur ce terrain-là parce que de toute façon, on sera des pâles copies. Enfin, c'est mon avis. En revanche, il y a des choses qu'on peut faire. Et j'aime aussi beaucoup l'idée parce qu'en fait, c'est un genre, quoi, le thriller de bureau. Moi, je l'appelle comme ça, mais parce que ça me fait sourire et voilà. Mais c'est un genre hyper épanoui dans le cinéma américain à tel point qu'on connaît hyper bien le Capitole, le FBI. Tout ça a été maintes et maintes fois représenté. Là, l'idée, c'est de recoloniser le genre pour y amener notre culture et notre ADN européen. Et en plus, avec ce truc-là, quoi, un film européen. C'est un film français, fait par des Français, mais avec des acteurs européens, dans des lieux qui sont Bruxelles, Strasbourg, Malte. Voilà, c'est un film qui circule et qui cherche un ADN un peu européen, qui est donc pas du tout américain dans sa chair. Et en même temps, qui accepte de jouer avec des codes de cinéma qui sont pour moi pas des codes américains, qui sont des codes universels, de langage universel de cinéma, mais qui ont été beaucoup, beaucoup occupés par les Américains. C'est un peu la même chose que le film de procès il y a 5 ans. C'est un peu le même truc.
Et alors cette scène, toi tu parlais de la scène de la gare, moi il y a une autre scène qui m'a marqué et qui est très cinématographique et je me demandais est-ce que c'est de la fiction. Alors on va spoiler, je préviens.
Ouais, du coup on a le droit de spoiler, c'est ça.
Ça fait partie du deal.
Moi j'appelle ça le braquage de la commission.
Voilà, la scène dans la reading room où José Bové exfiltre, fait sortir le dossier par la fenêtre et où on les voit. Ça s'est vraiment passé, ça?
Eh ben oui et non. Non, mais oui. En gros, donc moi j'ai l'impression que notre travail. Moi, je suis hyper rigoriste sur n'allons pas trop inventer et restons dans un truc vraisemblable. Et en même temps, on cherche sans arrêt des bonnes idées de scénario. Et en fait, c'est José qui a eu cette bonne idée de scénario, mais avant qu'il sache qu'on allait faire un film. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui est vrai, c'est que quand on a accès à un document couvert par le secret des affaires dans la Commission européenne, on a effectivement un slot d'une heure dans une reading room de la Commission. On arrive, il y a des badges partout, ça rigole pas du tout la commission, c'est très sécurisé, donc vous êtes effectivement escorté, vous videz vos poches, il n'y a plus de téléphone portable, il n'y a même pas un stylo, des fois qu'il y a une caméra dans le stylo comme dans un mauvais James Bond, et vous êtes sous surveillance comme quand on passe un examen, vous signez un contrat de confidentialité qui vous engage à ne rien dévoiler, donc il faut bien lire le contrat de confidentialité, et puis à la fin on vous amène un document qui est caviardé, ça c'est le réel. C'est ce qu'a vécu José. Et José nous raconte ça avec son assistant Jean-Marc Desfils, qui est l'inspiration du personnage joué par Thomas VDB, qui s'appelle Fabrice dans le film. Il nous raconte ça tous les deux. Il disait, nous, on avait eu une super idée. On était persuadés qu'il n'y aurait jamais de clause qui dit qu'on n'a pas le droit de balancer le document par la fenêtre. On était sûr que ça n'allait pas être facile à attaquer, etc. Donc c'était notre plan. Et c'était leur plan avant que ce soit celui des personnages du film. Et donc le fameux Jean-Marc attendait en bas de la commission, c'était pas exactement ce bâtiment-là, c'était un autre, mais il attendait, c'était plus facile comme plan parce que le bâtiment était moins grand, et il attendait sous la pluie comme un con pendant très longtemps parce qu'il n'y avait pas de clenche à la fenêtre et qu'il n'a pas pu mettre à exécution ce plan. Mais quand il nous raconte ça, on se regarde et on se dit immédiatement, on va le faire, c'est génial. C'est une idée de cinéma.
Ah oui,
et donc,
super idée.
Et on s'autorise hyper facilement à faire ça, parce qu'il y a des fois, je ne m'autorise pas. Parfois, mon co-scénariste essaie de me pousser un peu plus vers la fiction.
Moi, c'est le problème que j'ai encore, mais je voudrais qu'on en parle de ça justement, sur ce que tu t'autorises ou pas. Quoi.
En fait, moi, je trouve que du coup, il faut déployer le cinéma dans des endroits plus compliqués, quoi, plus marrants. Quoi. Donc, en gros, là, moi, je me suis autorisé parce que José a balancé des trucs par la fenêtre. Mmh. Plein de fois, des bureaux même, il a balancé par la fenêtre. non, mais c'est vrai. Donc, il nous raconte plein de choses. Et c'est quelqu'un qui vient de l'action, quoi, militante et sur le terrain. Et donc, au départ, moi, l'idée que je me faisais du film, c'était un peu à l'américaine, bêtement. Mais voilà, chacun son imaginaire. Mmh. Des films très sérieux, très solennels. On en parlait un tout petit peu avant d'allumer les micros. Souvent, chez les Américains, pour parler de ça, c'est des films soit cyniques, quand ça tourne un peu à la farce cruelle, genre McKay, c'est-à-dire des films qui tirent la sonnette d'alarme avec un humour, une ironie cruelle, soit des films très solennels et souvent très sombres. C'est vrai, rarement, en fait, à part, mais même quand on regarde toute la carrière de Lumet, pour en prendre un vrai de vrai, il commence par être idéaliste et puis petit à petit, au fur et à mesure des films, il est de plus en plus noir, quoi, et il perd tout espoir dans les derniers. Moi, quand je rencontre José, donc je me fais cette idée-là. Je me dis, on va faire un film sur une affaire de corruption par les lobbies terribles, quoi, qui empêche de dormir, qui fait froid dans le dos. Et quand je rencontre José, quand on rencontre José, il a un sourire aux lèvres permanent et il se marre non-stop. Et il nous dit, nous, la bagarre, il faut qu'il y ait du plaisir. Et c'est ce plaisir qu'on est allé injecter dans le film. C'est-à-dire ce sourire qui a très, très bien chopé Bouli, qui est là en permanence, il est aussi dans le film, dans la musique. Il est dans un truc ludique.
Il sort des toilettes, il y a presque une scène de caca.
On a coupé l'histoire de on vole du PQ au Parlement, ça on a gardé, mais on a coupé des choses que t'avais lues dans le scénario. Mais il y a en tout cas un truc ludique chez les personnages, et en fait dans leur combat il y a d'abord un vrai optimisme, c'est-à-dire c'est hyper lucide sur le bordel et les dysfonctionnements, et en même temps vraiment sincèrement optimiste. C'est pas une posture de cinéma, ça, c'est eux en fait. Et José, c'est une leçon d'optimisme, vraiment. Et je voulais qu'il y ait ça dans le film, parce que ça, c'est juste. Et après, on peut s'émanciper de cette fenêtre qui s'ouvre pas, on peut inventer des courses-poursuites à la gare, qui est pas vraiment une course-poursuite, mais qui est très courte. On a filmé, d'ailleurs, pour l'anecdote, persuadé que là il y avait beaucoup de cinéma, on a filmé à l'épaule et tout à la Green Grass, et franchement c'était ridicule dans le film de mettre ça tout d'un coup et d'aller un peu, en fait le film va pas dans son premier degré quoi à l'américaine, c'est à dire que il y a toujours une forme de plaisir et d'ironie à les suivre eux dans ce genre là mais on pouvait pas être complaisant sur la poursuite caméra à l'épaule parce que ça devenait un peu ridicule quoi. On joue le jeu jusqu'à une certaine limite, c'est peut-être là que
c'est une question de sensibilité, c'est un débat qu'on avait déjà eu sur ton premier film, c'est-à-dire que et c'est une question de potard, de réglage, hein. mais c'est vrai que de temps en temps, surtout avec un personnage comme Beauvais, je trouve que tu peux te le permettre, et en particulier quand un acteur comme Boulianer, il faudrait peut-être aussi, si on a le temps, de parler de ce choix de casting qui est incroyable, quoi, parce qu'il était, c'était pas ton premier choix, enfin en tout cas t'as envisagé d'autres comédiens, mais
il y a toujours tout un chemin,
oui, bien sûr, évidemment,
c'est quand même mon premier choix, c'est quand même
c'était ton premier choix, d'accord, ok, moi je me souviens un autre comédien, mais c'est pour ça.
Oui, il y a eu d'autres idées, etc. Il y a toujours ce truc de est-ce qu'on va monter le film,
En
fait, Bouli, il est hyper identifié du monde du cinéma et des critiques, etc. Mais pas tant que ça du grand public. Et en fait, j'étais très content d'avoir un distributeur qui a eu l'intelligence et des partenaires financiers qui ont été convaincus d'aller monter le film sur Bouli. Thomas VDB, qui n'était pas non plus un choix si évident que ça. Céleste Brunkel, qui de toute façon, n'ayant que 20 ans, et l'outsider, voilà.
Et qui est super, hein.
Et qui est génial, et qui est vraiment la figure de fiction, et qui est un peu moi dans le film, quoi.
Bah, c'est notre porte d'entrée, je pense. Hein.
Et c'est ma porte d'entrée et la porte d'entrée du spectateur, parce qu'elle se pose toutes les questions qu'on se pose en tant que spectateur. Mais donc, ce trio-là, d'abord, moi, en tant que spectateur, j'aime bien qu'on me propose de nouvelles combinaisons d'acteurs et de nouvelles têtes, etc. Et on a été suivis, y compris par nos partenaires France 3, etc. Aussi parce que la nuit du 12 a cartonné et que Bouli a eu un César. Alors on est parti sur le film avant qu'il ait son César, mais le distributeur bientôt a pressenti ça et on s'est dit bah ouais, c'est hyper juste, c'est hyper bien, on y va. Il y a une notion de risque aussi là-dedans. Peut-être qu'avec je vais pas donner des noms et tout ça, on aurait pu avoir encore plus de moyens, mais c'est bien aussi de pas avoir tant de moyens que ça.
Toujours la contrainte.
Non, mais c'est bien parce que le Parlement nous accueille, il nous accueille sans nous faire payer. Donc on a des décors accessibles, etc.
Ah, c'est intéressant ça. Ils vous ont pas fait payer, d'accord.
Non, parce que c'est des institutions qui se veulent transparentes.
D'accord.
C'est pas un business pour eux. Disons que l'Europe manque pas d'argent. C'est un des trucs. Le Parlement européen n'a pas de problème d'argent. On vous fait payer quand il y a des problèmes d'argent. Les palais de justice sont exsangues et ils font payer les tournages parce que c'est
pour
contraignant
ça.
Pour eux. Mais le Parlement manque pas de moyens. Donc ce film, il s'est fait, il aurait pu coûter beaucoup plus cher. Il a pas coûté si cher que ça. C'est plutôt bien en termes de risque aussi. Enfin voilà, ça c'est une autre lecture du truc. Mais en tout cas, c'est sûr que Bouli était le meilleur pour jouer José Beauvais, j'ai aucun doute là-dessus. Et donc ça, c'est une intuition. Et ensuite, quand ils se rencontrent, ça se valide à mort, quoi. C'est-à-dire que la connexion entre les deux a nourri aussi le travail de Bouli. Le regard que José a sur Bouli quand ils se rencontrent et cette liberté qu'il va pouvoir me donner, lui donner, et cette confiance, en fait, quoi, qu'il donne et qu'il dit « Allez-y, les gars, amusez-vous », c'est hyper précieux pour le travail ensuite qu'on va faire et qu'a fait Bouli.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Et je trouve que c'est assez fin en fait parce que par exemple il fait pas l'accent.
Oui, parce que ça sert à rien d'aller commencer.
Mais bien sûr,
à...
mais mine de rien, en fait, il se teint pas les cheveux, il était.
Non, il s'éteint les cheveux. Bouli, il a les cheveux très noirs.
Ah ouais, d'accord. Okay.
Il y a quand même des points cardinaux. C'est compliqué.
Bon, la moustache, la pipe.
On peut pas enlever la moustache et la pipe à José Bové. Et du coup, la couleur de cheveux, on a voulu. En fait, et même pour Bouli, c'était bien de se transformer. Bouli a très vite dit je vais quand même perdre du poids. Moi, je lui aurais pas demandé ça particulièrement. Mais j'étais content qu'il le fasse pour lui, pour se transformer, en fait. Donc, c'est un endroit de déplacement de soi pour lui, mais c'est lui qui borde ça. Moi, je suis pas dans un truc de violence, de transformation. Et même dans l'absolu, je veux pas qu'on soit dans le biopic à l'américaine avec le concours de sosie, je déteste ça. Mmh. On est dans une liberté d'incarnation, le temps du film, d'un Beauvais à cet endroit-là. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, au début, on voulait ouvrir sur un fauchage OGM dans des archives. Au début, c'était carrément Indiana Jones, la séquence d'ouverture, mmh, mais, mmh. mais c'était tellement hors sujet par rapport au sujet du film. Mmh. Et puis après, on a joué avec
oui,
des archives.
Oui, mais pas sur la façon de camper, en fait,
le
ton héros.
Ouais, ouais. Oui, mais en même temps, oui, mais en même temps, le héros, c'est un José Bové élu au Parlement européen, donc en fait la bougeotte, et on l'a trouvé dans notre intrigue, et en fait ce truc entre guillemets de terrain et d'action, on l'a trouvé à l'intérieur de notre espace, et c'était bien en fait que le film finalement il s'ouvre sur le vertige avant le vote dans l'hémicycle européen. Mmh. C'était le meilleur endroit pour ouvrir le film, avec ce visage de Céleste qu'on ne connaît pas encore, et puis après quand on marque un an plus tôt et qu'on raconte tout ce qui s'est passé dans les coulisses et qu'on retrouve Céleste avec son sac à dos, il y a un paiement très fort, et c'est vraiment elle le protagoniste qui va évoluer, quoi. C'est elle qui a un arc, quoi. Mmh. José, c'est la statue du commandeur, c'est le héros de cinéma, il est super dans le film. Mmh. Mais c'est pas on s'est demandé hein, dans l'écriture, tiens, est-ce qu'on peut pas faire comme si c'était Clint Eastwood, quoi, hein, la dernière bagarre de José Bové avant la retraite, et est-ce qu'on va pas le travailler dans la fiction plus.
Oui.
C'était un peu casse-gueule et on a eu l'impression que c'était faux. C'est-à-dire, quand on écoutait José, autant c'est possible
de lui
faire
jeter
le truc par la fenêtre.
Mais t'as pas eu l'impression de pouvoir te le permettre parce que t'as José Bové, t'as Bully Hanner. Bully Hanner, par exemple, pour moi, il a toujours été une espèce de... Je sais pas, je pense à Obélix à chaque fois que je le vois. Je parle pas évidemment des Obélix de dessin animé, je parle vraiment de celui de Goscinny, quoi. Ouais. Et José Bové, c'est pareil, c'est un personnage, bah, tu parles souvent d'Eric Quint, mais on pourrait qualifier de Bigger Van Life. Mm. C'est un mec
ça.
Que tu peux croquer en quelques signes distinctifs très facilement et tu le reconnais tout de suite, mine de rien. Dans le monde politique, t'en as très peu, hein, tu peux. Et moi, ça m'a manqué, surtout que je trouve que quand tu te le permets, par exemple, quand il y a cette scène d'audition, il se met en plein milieu,
ça,
comme
c'est
ça. Voilà. Mm. Oui. D'accord, mais ou quand tu vois Barroso, par exemple, il y a une espèce de tension, t'as presque l'impression de tomber tout à coup dans un film de mafia, quoi, dans cette ambiance et tout. J'ai l'impression, au niveau de la lumière, ce que vous avez travaillé à ce moment-là, ce qui est très fort, il y a un truc un peu crépusculaire, en fait, là-dedans, qui est très étouffant. Et moi, ça m'a un peu manqué, en fait. J'ai toujours ce truc, c'est super, hein, je veux dire.
Non, mais j'aime bien
le spectateur et tout, que le film est excellent et qu'il faut aller le voir. Et Antoine, et je le sais, je lui avais déjà dit plein de fois, c'est un super bon élève, et parfois je trouve j'ai envie qu'il rue un peu plus dans les brancards, surtout que dans un film comme ça tu peux te le permettre de temps en temps. Moi, ça m'a un peu manqué.
Moi, j'ai l'impression qu'on a fait ça, mais avec cette limite. Mais t'as raison, il est bigger than life. Et à un moment donné, en fait, moi je cherche un endroit hyper bizarre d'émancipation du réel dans le cinéma et dans la forme et dans la proposition de cinéma du film. J'aime pas la proposition de cinéma, ça fait très dans la forme
ça
du
fait
film.
Premier élève,
voilà. Ça fait bon élève, ouais. Je précise, je n'étais pas bon élève, c'est ce qui explique tout, voilà. Dans la forme du film, je cherche du cinéma de l'inventivité et un peu d'audace, et je cherche des endroits, et encore une fois,
et je trouve que pour le coup il y a un vrai upgrade, enfin
c'est aussi dû au décor,
ah ouais, mais même je trouve pas que ça,
procès,
tu vois, il y a par exemple c'est beaucoup plus coloré là où c'était un peu plus monochromatique à Tone, en fait, par exemple dans Une Intime Conviction. Il y a un truc comme ça qui est vachement plus vivifiant, je trouve, déjà dans celui-ci.
En tout cas, dans la forme, je suis un peu désinhibé et je m'angoisse pas du tout sur le sentiment de réalité, par exemple, quand je suis sur le plateau. C'est-à-dire qu'il y a un endroit du cinéma français prégnant dans la forme. C'est-à-dire, je parle même pas de naturalisme, mais d'avoir peur d'aller dans l'audace d'un effet de cinéma, etc. Il y a un truc culturellement comme ça dans le cinéma français que j'aime beaucoup par ailleurs, etc. Et que moi, j'arrive pas à faire du naturalisme parce que je veux y aller, quoi. En revanche, je revendique ce truc de l'effet, le cinéma, mais sur un matériau lo-fi. Et José, il est bigger than life déjà, en fait. Et on a essayé un petit peu de s'interroger. On n'a pas tiré le fil tant que ça, mais peut-être il faut raconter que c'est un combat où il a failli raccrocher et puis finalement non, et ce truc d'aller comme ça sculpter dans la trajectoire dramaturgique du José Bové, et en fait on trouvait ça pas juste, on trouvait que ce qui était juste c'était la façon qu'il a lui d'être bigger than life, et donc on s'est un peu arrêté là, c'est-à-dire comme si on a des inventions de cinéma dans la forme, mais on n'a pas trop... C'est comme une pudeur aussi ou un rapport au réel, quoi. Mais je suis, moi, très rigoriste et obsédé pendant l'écriture du scénario, et mon co-scénariste Marc Sirigas me tirait un peu par la manche pour, en me disant « Mais là, on peut y aller plus, etc. » J'ai dit « Ah oui, mais bon... » et au final, je me désinhibe dans la forme, voilà. Mais j'aime bien l'idée que... cette idée-là de José qui vient s'asseoir devant... En fait, toutes les idées Bigger Than Life, c'est le réel, quoi. Et je trouve ça cool. Et de la même façon que notre José, il est Bigger Than Life lui-même, et que je n'ai pas besoin de pousser, j'ai pas envie de pousser les curseurs, de la même façon qu'on se contraint dans ce truc lo-fi de thriller de bureau, et pas... voilà, j'ai lu, je ne sais plus dans quelle critique, là, parce que j'en lis plein là aujourd'hui, que c'était un film qui
on avait... enregistre au moment, enfin ton film sort demain, voilà.
Que le film n'a pas besoin de poursuite en hélicoptère, etc., mais qu'il y a un petit côté Ethan Hunt. Franchement, j'aurais pas osé écrire un truc pareil, c'est un peu too much. C'est bigger than le film. Mais il y a un truc de plaisir de cinéma dans cette scène de braquage de la commission, on se met à courir autour et tout, qui est très désinhibé, qui est très, qui est pas du tout dans la typologie du film français, par exemple. Parce qu'il y a plein de façons de faire des films, et il y a plein de films français différents. Mais dans ce qu'on attend
De façon archétypale du film français.
Et puis dans ce film d'enquête réaliste, sourcé, c'est-à-dire que le film a l'air d'être circonscrit à quelque chose qui ne peut pas prendre des libertés. Et moi, je veux absolument prendre des libertés. Donc à un moment donné, il y a l'idée qu'a eu José dans le réel de dire on va le jeter par la fenêtre, c'est devenu une petite scène de comédie d'action assumée, pas trop longue non plus, parce que si on commence à partir complètement, on se perd. Faut aussi... L'affaire est très sérieuse, donc on peut faire des petits pas de côté, mais il faut revenir un peu dans la danse, quoi. Mais j'assume ce truc de pas vouloir sculpter trop dramaturgiquement la rencontre dans le réel que j'ai fait avec José. C'est déjà un héros dans la vraie vie, donc c'est un héros de cinéma. C'est pas la peine de le pousser davantage. Il est déjà très héroïque, je trouve.
Je veux pas monopoliser la discussion juste là-dessus. Je veux juste finir le truc suivant. Justement, je crois que c'était chez France Inter que j'ai entendu ton co-scénariste qui disait « Mais on n'est pas les hommes du président ». Et moi, j'ai envie de ça, en fait. J'ai envie d'avoir du split diopter, du truc où vraiment les personnages... Non, mais bien sûr. Peut-être pas forcément ça. C'est juste, tu vois, j'essaie de retomber sur des exemples un peu typiques. C'est-à-dire que une des grandes valeurs de ton film, c'est justement de faire rentrer le cinéma là-dedans. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Je veux dire, on est à l'aube, en fait, de nouvelles élections européennes. Il y a un désintérêt total des gens, en fait, vis-à-vis de ça. Et je pense que si la fiction, en tout cas le cinéma, peut avoir un rôle à jouer dans la société, c'est notamment ça, c'est-à-dire de d'amener, c'est une autre porte d'entrée mine de rien, hein. Moi, je, sur l'utilité des films et tout, je suis toujours un peu circonspect, mais il n'empêche que c'est quand même une porte d'entrée et d'intérêt vis-à-vis de du réel, en fait, que de faire rentrer la fiction de là-dedans et du coup de se permettre de la faire rentrer à plein pied. Et moi, je sais que parfois ça m'a un petit peu manqué, en fait, dans le film, ça. Je me suis dit j'aurais aimé que silhouette plus, en fait, Beauvais.
Il y a de la fantaisie. C'est marrant. Je sais pas si je suis à mon max.
En tout cas,
j'ai réfléchi à ça et pour moi, c'est cohérent par rapport au projet.
Le film est très cohérent. Ça, c'est sûr que pour le coup, t'as pas de faute de goût et tout.
Et pourtant, il y a des petits moments de fantaisie, quoi.
Complètement, bien sûr, évidemment.
En gros, pour revenir sur les hommes du président, parce que c'est évidemment que nous aussi, on adore les hommes du président et que c'est génial. Mais je le disais tout à l'heure, mon désir de cinéma au départ, en fait, c'est le producteur du film, Marc Bordure, qui est venu me voir avec un documentaire sur Interpol et sur le travail de deux jeunes journalistes à Lyon, pigistes précaires, qui ont fait toute une série d'articles sur Interpol qui s'est vendu à tout un tas de lobbies. Et ils ont fait chier le président d'Interpol, un Américain, qui a bradé l'institution, qui a très peu de moyens, qui a un dixième du budget du FBI pour faire beaucoup plus encore. Et donc, il s'est vendu au Qatar, au lobby du tabac, à l'industrie pharmaceutique, à la FIFA, et ainsi de suite. Bon, et on a commencé...
Quel enfer.
Et c'était fascinant. Voilà. Et on a commencé à partir là-dessus, on a rencontré ces journalistes, on a finalement abandonné le projet. Mais le premier désir, c'était un thriller contemporain, très sérieux, quoi. On peut parler aussi de... Dans le genre monument absolu qui pose le genre, qui nous a tous traumatisés, Révélation de Michael Mann.
Oui, bien sûr,
chef-d'œuvre contemporain, 30 ans après.
Mais qui est aussi, tu vois, qui ose être complètement créateur de forme, c'est ça qui est
ouais,
très
mais bon,
étonnant.
On a affaire à un
d'accord,
génie aussi.
D'accord, d'accord.
Mais en tout cas, le point commun des hommes du président.
Tu peux le faire.
C'est pas ça, c'est que au départ, je fantasme là-dessus. Je me dis génial, on va faire ça en Europe, on va essayer.
Ouais.
Pas de se hisser à cette hauteur-là, mais de faire ça. Cette
moi,
typologie
j'achète,
de
hein.
film. Voilà.
Si tu fais un Kickstarter.
Et en fait, la rencontre avec José, donc en cherchant autour de ce truc-là, on n'y arrivait pas sur Interpol, c'était trop vaste. Quoi. On trouve l'affaire Dali. En tirant le fil de l'affaire Dali, on tombe sur José Bové. Et quand on va rencontrer José Bové, mais tout bascule. Et on trouve tout à fait une autre incarnation qui a rien à voir avec la solennité de la façon qu'ont eu Pacula et tous les
qui est très légère,
américains.
En fait. C'est ça qui est super.
Et on trouve une légèreté, une vitalité et un truc qui est plus intéressant, en fait, que l'idée que je me faisais, moi, de ce qu'on allait faire. Et puis, on risquait quoi? De faire la même chose en moins bien, quoi. Un truc de copiste et tout. Et donc, en fait, et du coup, faut embrasser ça. C'est-à-dire, faut laisser rentrer tout ça. Et donc, la fantaisie du film et même l'ironie du film, parce qu'il y a une ironie. Encore une fois, la musique a vachement pris en charge ça. Il y a un truc... de clin d'œil, d'abord de genre, quoi, vraiment assumé, quoi, dans le générique, etc. Il y a un truc très solennel au début où on prend au sérieux ce décor impressionnant de l'hémicycle européen et on y injecte, on sait qu'on va y injecter des affects, etc. Et puis après, le générique commence et là, on est sur un film de genre qu'on a vu 100 fois où on suit un dossier confidentiel. Il se trouve qu'il y a un dossier confidentiel qui est allé dans le bureau de Barroso. Donc, on le trouve dans le réel, on l'attrape, on le met dans le cinéma. C'est pas très compliqué, ça. Et la musique nous dit, on va s'amuser un peu. Voilà. Et il y a ça. Et ça, c'est José qui s'est éclaté, quoi, avec son équipe, à secouer le cocotier. Et donc, José, il cite tout le temps Camus, Sisyphe. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Et moi, j'adore Camus. Bon, ça devient prétentieux, là. Mais il y a ça, en fait, dans le personnage. Et il y a un optimisme. Et tout ça, c'est pas dans le cinéma américain. Et tant mieux.
Oui, et donc, on
est au service de ça. Et j'adore l'idée qu'on trouve un film qui n'est pas celui... auquel on pensait au départ et qu'on se laisse emmener, quoi, dans toutes les étapes par ce qu'on trouve, en fait. Et donc, ce truc de garder ce José du réel et d'accepter qu'il n'a pas d'arc transformationnel comme il faudrait dans les bons manuels de bons élèves du cinéma américain, et de se dire, ouais, mais non, la fiction, ils sont plusieurs, et puis il y a Clémence, et c'est elle qu'on va investir, et ça va être une surprise aussi, parce qu'en fait, elle longe un peu les murs au début, on ne la voit pas venir, et puis tout d'un coup, il y a un changement de point de vue très court, mais on est avec elle, on voudrait les retrouver, mais on est avec elle, et donc tout ça, bah, ça sort un peu des clous. Et c'est ce qu'on trouve comme chemin, et c'est ça le film, en fait. Et voilà.
Le personnage de Thomas VDB, Fabrice, lui, il a un arc, par contre, parce qu'il est quand même très cynique, assez désabusé au début, et puis ça lui redonne confiance aussi. Ça, c'est, j'imagine que c'est fictionnel pour le coup.
Mais pas tant que ça. En fait, c'est les outils de la fiction, c'est comment on fait évoluer les personnages. En tout cas, on a accepté à un moment donné que José, on n'allait pas le voir se transformer totalement. C'était OK. Voilà. Par contre, les deux autres, oui. Et en fait, Jean-Marc Défil, que je rencontre en même temps que José, on se retrouve tous sur le plateau du Larzac chez José, on mange du roquefort, de la charcuterie, on boit beaucoup de vin, on se tape dans la main, on s'entend, on se comprend. Il se trouve que José adore Une intime conviction et le cinéma américain en général et les films efficaces et tout, donc on se comprend sur la méthode surtout. Et Jean-Marc qui a fait l'enquête, en fait. Donc José allait secouer le cocotier, Jean-Marc se tapait les recherches pour l'essentiel, la matière, c'est Jean-Marc derrière un ordinateur et José devant des caméras. Ça, c'est ça le matériau du film. Avec quand même des
trucs. Ce qui est très bien d'ailleurs décrit à un moment où il explique à la stagiaire, ah bah là, voilà, regarde, il est en train de faire ci, là, il est en train de tirer des ficelles.
Ouais, c'est tout ce qu'ils nous ont raconté, ce que m'a raconté Jean-Marc. Et donc, Jean-Marc, quand on le rencontre, il dit assez vite, je veux pas trop apparaître en mon nom, parce qu'il est un peu, voilà. Et on dit, ok, très bien, tant mieux, ça va nous permettre de débrider la fiction. Donc, de Jean-Marc, on va créer deux personnages. Fabrice et Clémence, parce que c'est eux qui font le boulot, puis finalement, enfin, c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire ce qu'on fait Fabrice et Clémence dans le film, c'est globalement Jean-Marc qui l'a fait.
D'accord.
Et Clémence, ça devient beaucoup nous, parce que moi je vais visiter le Parlement emmené par Jean-Marc qui est encore assistant parlementaire. Et Jean-Marc qui me dit qu'il veut pas apparaître, mais finalement à la fin il est très content, il s'y retrouve, il a fait les débats avec nous, il se reconnaît complètement. Il est bipolaire. Et cette bipolarité, elle a nourri l'écriture de la fiction. Et ce personnage qui a jamais voulu raccrocher, mais qui traîne un peu la patte au début du film, qui est effectivement dans ce mood un peu de nonchalance,
un peu dépressive,
de fatigue,
ouais, ouais,
de fatigue écrasée à plus y croire et tout. Même si Jean-Marc il a cette foi qu'a José aussi, mais ça raconte ça en fait, c'est la forme. Et à la fin, il m'a dit que je pouvais le raconter, donc je le raconte. Mais c'était la forme qu'a trouvé la fiction d'une émotion juste que j'ai trouvé chez lui en fait. Et puis du coup, il a des phases up et Thomas a ça. Thomas, il a un truc très nonchalant, il traîne un peu la patte et il est fatigué, et en même temps, il est hyper vif, il a ce truc là. Et donc, on voulait un peu sculpter le personnage et son évolution, et puis et revitaliser sa foi dans le politique à travers cette enquête, c'est-à-dire qu'il arrête pas de lui dire n'y va pas, n'y va pas, et puis finalement c'est lui qui ramène une info, et puis il enfourche le cheval. Il est aussi un peu secoué par son ex-amour qui lui dit qu'il faudrait qu'il retrouve sa colère. Et donc voilà,
c'est très marrant d'avoir une petite portion de comédie romantique d'ailleurs, quasiment quoi en fait, à l'intérieur du récit quoi.
Ouais, bah c'est, ça fait pas en fait. Je voulais, comme dans Les Hommes du Président, qu'ils aient pas trop d'intime et c'est des personnages qui sont ce qu'ils font.
Ouais,
c'était hyper important, ça. Ouais. Mais en même temps, ils ont quand même des affects. Il faut quand même aller injecter deux, trois trucs.
Oui, donc,
il y a une scène sur le quai de la gare entre les trois. Il y a des toutes petites bribes d'intime, mais quasiment rien. Et il y a ça.
Ouais, mais qui ressortent du coup vachement, quoi, je trouve.
Et qui existent dans notre espace. Voilà, on tenait à ça. Parce que... Et puis aussi, parce que moi, j'ai du mal avec la caractérisation des personnages. Tu les coupes tout le temps, ces scènes-là. Donc je voulais que ce soit dans l'intrigue. Voilà.
Le temps file. Est-ce que je peux encore poser une dernière question, Antoine? J'ai le temps, pas
rapide.
C'est passionnant, quoi.
Moi,
je voulais juste. Attends, si je peux juste. C'est le film est très court. Pour un film comme ça, c'est quoi? C'est 1h35, je crois.
On a tourné un film de 2h05.
Mais c'est...
On a tout coupé.
Non, mais il faut le dire aux gens parce qu'il y a énormément d'informations. C'est une affaire qui est très complexe.
C'est très dense.
Et c'est moi, j'étais hyper étonné de voir à quel point le film filait, en fait, le rythme du film. Je voudrais juste avoir un petit mot en fait là-dessus, parce que je pense que ça peut aussi donner envie aux gens et aller à contrario de ce qu'on pourrait appréhender en fait, un film comme celui-ci.
Ben, on voulait absolument pas brader la densité et accepter l'idée que c'est des codes qu'on n'a pas, le Parlement, et qu'on va un petit peu devoir s'accrocher. Donc les 10 premières minutes, on assumait à mort, et après c'est le rythme qui nous a gouvernés, et je crois que c'est la bonne durée pour un film dense. C'est-à-dire que Mais ça, c'est le film qui te le dit. Il y a ça quand tu lis Pakula dans Les Hommes du Président, c'est tu ne sacrifies rien au rythme, quitte à ne pas comprendre tout et à... Tu sais que tu vas pas tout comprendre, mais moi, j'avais cette référence-là sans arrêt. Je disais, quand je regardais Urgence à la télé, n'ayant pas fait médecine, je ne comprenais pas 90% des dialogues. Mais ça m'empêchait pas d'accrocher avec les personnages et de comprendre l'essentiel. C'est un peu ça, c'est un techno-thriller dont on n'a pas les codes. Et le rythme, la durée, j'étais très étonné le premier que le film fasse cette durée-là, mais c'est la bonne durée. C'est la bonne durée pour ces codes qu'on ne maîtrise pas dans cet espace-là, avec ces personnages-là. Et pour
t'as
moi, c'est la bonne durée.
Coupé beaucoup, en fait
30 minutes.
Ah ouais, quand même.
Ouais.
Et on verra ça dans le Blu-ray.
Voilà.
La version complète. Mais c'est vrai que la densité d'informations est colossale. Et en même temps, tu nous disais que t'as aidé à préparer un dossier pédagogique, d'ailleurs, sur le sujet. Pour un public jeune
Ça, c'est le distributeur qui a tout de suite pensé que ça allait être intéressant. Et donc, il y a des boîtes qui sont spécialisées là-dedans pour accompagner les scolaires, voir des films. Et c'était passionnant parce qu'il y a tout un questionnaire, etc. Donc, il y a effectivement... En fait, le film frôle dans sa représentation des institutions. Il frôle un certain nombre de choses. Moi, déjà, c'est gagné si on comprend, parce qu'on nous parle tout le temps de l'Europe et de Bruxelles. C'est comme s'il y avait une instance européenne. Alors qu'en fait, il y a trois instances européennes. On parle de deux dans le film. Si déjà on comprend que l'Europe, c'est à la fois la commission, l'exécutif, l'étoile noire de Star Wars derrière sa barricade en métal, là, avec José Manuel Barroso et des lobbies qui ont fait des trucs pas très clairs, et en face aussi un député européen parmi 700 qui se bagarre, et si on comprend donc qu'il y a la commission, le Parlement, que c'est pas la même chose, si en plus on comprend qu'il y a le Parlement à Bruxelles et à Strasbourg, mais là peut-être j'en demande trop, mais en gros on frôle des choses, mais on pose des éléments et on représente des lieux et on représente des protagonistes et on comprend que en fait l'Europe c'est des institutions et que la démocratie c'est un équilibre et dans les jeux de pouvoir entre des pouvoirs et des contre-pouvoirs, un équilibre des forces quoi, et que c'est une bagarre et que c'est un sport de combat. Si déjà on comprend ça, c'est gagné. Après on peut décortiquer les choses avec pédagogie, c'est possible d'aller un peu plus loin. On l'a fait dans les débats, on l'a fait dans ce dossier pédagogique, on va le faire dans des échanges avec les lycéens, etc. Moi c'est déjà gagné si on se projette dans ce scrutin qui n'intéresse personne en France. On est à 50% d'abstention, c'est dramatique. Et on est dans une instrumentalisation permanente de Bruxelles comme étant l'endroit où on nous empêche
les gens ont l'impression qu'on ne peut rien faire, voilà, qu'on ne peut rien toucher, alors que là, tu prouves l'inverse.
70% de ce qui nous concerne et des lois qu'on vote, mais même dans nos propres pays, viennent de ce qu'on vote à l'Europe.
Bien
et
sûr.
C'est un scrutin à la proportionnelle intégrale, c'est-à-dire qu'on ne vote pas contre le candidat d'en face. Comme dans notre vieille 5e République, on vote réellement pour des députés qui vont se retrouver dans un hémicycle et ils ne peuvent pas faire, je finis là-dessus, mais personne, il n'y a aucun groupe politique dans le Parlement européen qui a la majorité. Donc ils sont obligés, dossier après dossier, de faire des compromis démocratiques et des alliances. Ça, c'est passionnant. Ça me plaît. Il y a beaucoup plus de démocratie, de transparence dans nos institutions européennes et particulièrement dans le Parlement européen, qui est à mon avis l'institution la plus transparente de la planète. Que dans notre 5e République en France. Voilà. Et j'espère qu'un tout petit peu on frôle ça et on donne envie d'aller s'y intéresser. Voilà. Ouais. Ce sera gagné si déjà on... Et si ça donne envie à d'autres de faire des films aussi, ce serait cool.
Bon, allez voir le film d'Antoine Rimbaud en attendant.
Voilà. Voilà. Petit premier pas vers une éducation civique express à travers un techno-thriller. Une affaire de principe d'Antoine Rimbaud. Ça sort en salle ce mercredi 1er mai. Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Antoine, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup à vous.
Merci Antoine.
Merci Julien de m'avoir accompagné.
Merci Clémence.
Pour cet épisode. Et puis merci à Alain, à la Réal, et merci à Latex pour le mixage, le montage et l'habillage sonore. Merci également à tous nos auditrices et nos auditeurs. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions, pour nous soutenir. Qu'est-ce que ça fait pour nous soutenir ? Vous pouvez nous aider à rester indépendants, à maintenir nos programmes actuels, à en développer des nouveaux. Pour ça, rien de plus simple, rendez-vous sur une de nos plateformes partenaires, Tipeee, Patreon ou KissKissBankBank, mot-clé Capture Mag. Vous pourrez souscrire à un don récurrent ou un don ponctuel qui nous permettra donc d'avoir plus d'indépendance encore. Si vous nous suivez et que vous aimez notre travail, vous pouvez aussi évidemment poster nos contenus sur les réseaux sociaux, les relayer à vos amis, en parler autour de vous, nous mettre des étoiles sur les applis de podcast. Ça nous fait remonter dans l'algorithme. Et puis voilà, tout faire pour nous faire connaître en parlant autour de vous. On compte sur vous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film, numéro classique cette fois-ci, pour parler du reste de l'actu ciné du mois. Et puis après ça, on reviendra avec un épisode spécial Furiosa. Salut!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Kristen.
And I'm Jen from the I Mom So Hard podcast.
Now listen, we don't want to brag, but yes, we are moms. We're average
super
moms.
Below average sometimes.
But we're not just moms.
Yeah, we don't want you to think that we're just moms. And we're not just supermodels either. We're not just pieces of meat,
That's
guys.
Right. We're not even close.
Yeah.
But we are comedians and we're also best friends.
We're also best-selling authors.
And television writers.
We created a viral web series.
With over 300 million views.
Okay,
what's
that's
up?
Bragging.
Who's bragging?
Bragging
and we were
actually.
In our swimsuits again. Not supermodels.
We're also podcasters.
Are we podcasting right now?
Not right now, but we have been podcasting for 3 years. We're bringing laughs every Tuesday to women and moms everywhere.
And one dude who's a sophomore in college. His name's Greg. Whatever, he messaged us and made me feel cool.
So nice. Amazing. Please listen to the Your Mom So Hard podcast on Acast.
Woo!
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.